pouvez faire finalement,
c'est vous proposer quelques éclairages très, très rapides sur les liens un peu complexes qui peuvent exister entre discipline scolaire et discipline savante en géographie, et puis terminer avec quelques questions qui recouperont peut-être cet éclairage ou ces éclairages très rapides. Auparavant, une question que je me pose, je crois qu'il existe pour la géographie une discipline scolaire ou une sous-discipline scolaire ou une co-discipline scolaire, puisqu'il y a une association avec l'histoire. Par contre, si je regarde du côté de... vous avez utilisé l'expression discipline savante, je ne suis pas sûr qu'il existe une discipline savante en géographie, mais un ensemble de savoirs savants qui peuvent être extrêmement hétérogènes. Et de ce fait, la relation ou l'interrogation de cette relation est peut-être modifiée par le fait qu'on soit du côté d'une discipline et d'un ensemble de savoirs. Donc quelques éclairages très, très brefs pour dire en premier lieu que pour ce qui concerne la géographie, on est dans une situation qui est peut-être particulière, je ne le sais pas, vous me le direz, dans la mesure où dans la première moitié du XIXe siècle et puis encore jusqu'aux années 1870, se structurent des savoirs scolaires en géographie, que ce soit pour l'enseignement primaire ou pour l'enseignement des collèges et des lycées. Et ces savoirs scolaires se structurent alors qu'il n'existe pas de référent savant. Il y a une chaire à l'université qui est la chaire de géographie historique de la Sorbonne, qui a été créée au tout début du XIXe siècle. Il existe une société savante qui est la Société de géographie de Paris, créée en 1821. Il existe un certain nombre de savants autoproclamés géographes, mais il n'y a pas d'autre légitimité à leur qualification de géographe que le fait qu'ils publient une géographie universelle pour Conrad Maltebrun ou des ouvrages de géographie pour d'autres. Donc on n'a pas réellement de référent savant ou de discipline savante en géographie. Et peut-être qu'une spécificité de la géographie serait le fait que l'invention l'invention de savoir qui se développe à l'université et d'une structuration universitaire de la géographie est liée à une demande de l'école. Cette demande, elle est formulée à plusieurs reprises, et notamment dans un rapport important qui nous dit beaucoup de choses sur ce qui se passait dans l'enseignement de la géographie en collège et en lycée en particulier. C'est le rapport Imlie-Levasseur de 1871. Les auteurs de ce rapport en 1871 écrivent qu'il serait, je les cite, « utile de créer dans quelques facultés de province une chaire de géographie comme il en existe » depuis 1809 à la faculté des lettres de Paris. Et l'année suivante, ils vont reprendre la même idée. Hein. Dans l'intérêt de la science géographique, il serait très désirable que la géographie eût quelque chaire dans l'enseignement supérieur. Et derrière cela, il y a l'idée que si on veut des professeurs de géographie, enfin, professeurs d'histoire-géographie, il va bien falloir les former quelque part, d'où la nécessité de développer des chaires. Donc ce sera une première modalité de la relation. Il y a aussi le moment de 1905, les conférences de 1905 qui ont été étudiées notamment par ma collègue Marie-Claire Robic, enfin par mes collègues Marie-Claire Robic et Jean-Pierre Chevalier pour ce qui concerne la géographie. Conférences de 1905 dans lesquelles on voit d'une part que ce sont trois géographes de l'enseignement supérieur dont Paul Vidal de Lablache, qui est le plus célèbre des géographes de l'époque, trois géographes de l'enseignement supérieur qui vont prendre des positions relativement à l'enseignement de la géographie. Et ce que Marie-Claire Robic montre très bien aussi, c'est que l'enseignement secondaire va devenir un théâtre, le théâtre de ce qu'elle appelle des batailles auxquelles se livrent les universitaires. En fait, il y a un enjeu important qui est développé au début du XXe siècle pour l'enseignement de la géographie. Est-ce que la géographie doit rester associée à l'histoire ou est-ce qu'elle doit basculer du côté des sciences naturelles. Et c'est quelque chose qu'a posteriori, on peut analyser comme étant absolument décisif quant à ce qu'est devenu la géographie aujourd'hui. Je vais faire de l'histoire fiction, mais si on imagine un rattachement de la géographie aux sciences naturelles en 1905, ce qui aurait pu se produire, la géographie universitaire aujourd'hui serait probablement extrêmement différente de ce qu'elle est. Un troisième éclairage très, très rapide, alors que j'avais étudié assez précisément dans ma thèse, c'est l'histoire de ce qu'on a appelé le système monde. Le système monde, c'est un modèle de lecture du monde qui est développé au début des années 80 par un géographe qui s'appelle Olivier Dollfuss. Donc un modèle de lecture du monde très inspiré de la systémique, hein, l'idée que c'est une pensée de la mondialisation, une façon pour les géographes de penser à la mondialisation, c'est l'idée que les différents lieux du monde sont en relation les uns avec les autres, avec des systèmes d'influence, de domination. Vu d'aujourd'hui, ça paraît pas très surprenant, ça l'était quand même pas mal dans les années 80, dans la mesure où, notamment dans la mesure où Olivier Dollfuss accompagne cette proposition de formalisation très, très schématique, avec des flèches dans tous les sens, des petits rectangles. Enfin, c'est un peu nouveau pour une discipline géographique qui est très marquée par son côté littéraire. Donc, Olivier Dollfuss va faire cette proposition dans un milieu très savant au début des années 80, même presque confidentiel, publication de littérature grise. On est en 84 et en 86, ce modèle du système monde est repris, didactisé, si on peut dire, dans un manuel de terminale des éditions Belin, par un de ses collègues. Et l'année suivante, enfin dans les années suivantes, les programmes vont s'aligner peu à peu, le programme de la classe de terminale va s'aligner peu à peu sur cette mise en système du monde. Et on va avoir là une situation finalement qui est assez, pour la géographie, qui est assez intéressante et originale, qui fait que c'est grâce au passage dans l'enseignement secondaire qu'une proposition scientifique a connu une forme de développement scientifique. Parce que la fin de l'histoire, c'est qu'après la mise en œuvre des programmes de 89, le modèle du système monde est retourné de manière beaucoup plus vulgarisée dans la science géographique. Donc d'une certaine manière, il y a eu un passage par les manuels scolaires et ensuite par les programmes scolaires d'un objet scientifique, une expérimentation, qui ensuite a été qui est retourné dans la sphère scientifique de manière beaucoup plus vulgarisée. On a une circulation, si vous voulez, qui est assez étonnante. Et cela a été dit tout à l'heure à propos des sciences économiques et sociales, il y a ensuite toutes les réactions de la corporation. Parce que lorsque les enseignants voient apparaître cette espèce d'objet nouveau qui est le système monde dans les programmes de 1989, il y a beaucoup de réactions de la part de l'Association des professeurs d'histoire-géographie, et je me souviens d'une remarque notamment d'un enseignant qui écrivait à l'association et qui disait c'est un programme de Sciences Po, c'est beaucoup trop compliqué pour les élèves, ils n'y comprendront rien, donc il faut rapidement revenir là-dessus. Ce qui va être fait dans les quelques années qui suivent, on va exfiltrer plus ou moins discrètement cette espèce de révolution d'objets très, très neufs qui était apparu dans les programmes. J'enseignais à ce moment-là dans le secondaire et je me souviens très bien de cette nouveauté et l'émotion qu'avait suscité cette nouveauté dans les programmes du secondaire. En deux minutes, donc là j'ai vraiment été très, très rapide et je vais être encore plus rapide pour en deux minutes essayer de lancer quelques questions que je me pose par rapport à ces relations discipline scolaire, discipline savante. Je vais revenir à cette idée de la discipline savante comme un ensemble composite. D'abord parce qu'il y a une grande partie des champs de la géographie contemporaine qui n'ont strictement aucun écho dans l'enseignement secondaire. Je pense notamment à ce qu'on appelle la géographie théorique et quantitative. De la même manière, on pourrait dire que le champ de la géographie culturelle a très peu d'écho dans le domaine scolaire. Je crois aussi qu'il y a un niveau de construction du savoir savant qui, pour des tas de bonnes raisons, hein, c'est peut-être assez banal ce que je vais dire là, mais qui n'a pas d'écho, qui n'est pas lié à ce qui se passe dans l'enseignement secondaire. Je pense à toute la recherche qui peut être diffusée par l'intermédiaire des revues scientifiques de géographie. Alors j'avais quelques exemples, je vais les citer. Hein, donc une de nos revues s'appelle L'Espace géographique. Dans les derniers numéros, j'ai trouvé quelque chose sur la géographie des zoos. Je n'ai jamais vu la trace dans l'enseignement secondaire. Sur la géophilosophie de Deleuze, sur la conservation des ruines de guerre dans l'espace urbain. Bon, je pourrais continuer, mais tout cela pour vous dire qu'il y a un niveau qui n'est pas en interaction avec la sphère scolaire. Donc je crois que ce qui est en interaction avec la sphère scolaire, c'est une géographie savante, vulgarisée, si on peut dire les choses de cette manière-là. Question aussi de ce qui passe du savant vers le scolaire, mais attention, je ne vois nulle nécessité à ce que les choses passent du savant vers le scolaire, hein. Mais question de ce qui passe du savant vers le scolaire et de ce qui ne passe pas. Il y a des choses qui sont passées très vite, qui ont circulé très vite, c'est toute la modélisation graphique, avec des choses étranges, je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, comme la chorématique. On faisait des tas de petites figures à peu près indéchiffrables pour le commun des mortels, et tout ça, on l'a trouvé très très vite dans les manuels scolaires, pas vraiment dans les programmes par contre. Et puis aujourd'hui, un exemple, alors quelque chose d'assez étonnant qui est passé massivement dans les manuels scolaires, c'est toute la géographie environnementale, pardon, dans les programmes scolaires. Toute la géographie environnementale, aujourd'hui, qui structure l'ensemble des programmes scolaires de géographie, quasiment de la sixième à la terminale. L'enseignement primaire y échappe pour d'autres raisons, dans la mesure où les programmes actuels sont très très éloignés de la science géographique. Et bon, mais je passe là-dessus. Mais en tout cas, la géographie environnementale est complètement passée et structure même l'enseignement secondaire. La question des manuels scolaires. J'ai essayé de m'intéresser à qui fait les manuels scolaires. Sans rentrer dans les détails, je dirais qu'auparavant, c'était assez fréquemment des universitaires qui faisaient les manuels scolaires. Aujourd'hui, ce sont beaucoup plus des enseignants du secondaire. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à examiner pour ce qui concerne la question des relations entre disciplines scolaires et disciplines savantes. Deux questions encore, et j'en aurai terminé. La question des rythmes, du rythme de travail, du rythme de publication, du rythme de production des savoirs. Dans la discipline dite savante, on est dans un rythme de diffusion qui est quasi quotidien. C'est-à-dire que on produit, des articles sont publiés dans des revues, enfin ça se fait en continu. Du côté du scolaire, les choses se font par à-coups, et finalement c'est très souvent le rythme des programmes qui détermine une mutation. Donc peut-être que ces rythmes divergents sont aussi à prendre en compte dans cette réflexion-là. Et puis, la dernière question, alors qui est à nouveau très spécifique à la géographie, et je m'arrêterai là, c'est la question des enseignants, de la relation des enseignants, pardon, à la discipline savante. La géographie est enseignée par des historiens. Les statistiques du CAPES aujourd'hui, c'est en gros l'idée que que 85% des enseignants de géographie, des étudiants donc qui deviendront enseignants, qui réussissent le CAPES, sont historiens. Donc 15% de géographes. La géographie est enseignée par des historiens qui, pour la plus grande partie d'entre eux, n'entretiennent pas de relation avec la science géographique et qui enseignent la géographie essentiellement par l'intermédiaire des manuels scolaires. Et je pense que là aussi, c'est quelque chose à prendre en compte dans l'examen de cette relation. Bon, je vais m'arrêter. J'aurais pu dire beaucoup d'autres choses, mais merci. Voilà.